Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est parti pour notre étude sur le livre de Shir HaShirim. Et ben je réponds au patron. Ben voilà, ça y est. Comme ça, c'est fait. Donc, je pense qu'on est bon et que donc on peut commencer. Voilà. Faites-moi juste un tout petit signe si effectivement ça marche bien et qu'on peut y aller. Et comme ça, on y va. Ouais, non, pas de signe. On va dire que ça marche. On va dire que ça marche. Nounou. On donne une dernière chance. Hop là, où es-tu? Où es-tu, mon ami? Voilà. On est bien, super. Alors, c'est parti. J'ai pris mon Tanakh. J'ai mon Shir HaShirim et donc, bah, il n'y a plus rien qui nous empêche de commencer. Shalom à tous, c'est parti pour notre étude de Shir HaShirim, ma chère Li Shlomo. Alors, je suis très heureux de me retrouver devant vous et de pouvoir discuter avec vous de cela, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous m'avez fait un vrai problème. Vous m'avez mis devant une situation terriblement embarrassante. Alors, je vous en remercie. C'est assourd. C'est a priori interdit dans la halakha, d'après le Talmud. C'est tout simplement interdit de faire un cours sur, comme ça, en public. Hein, je vois que la connexion est moyenne. Ça revient, ça revient. Donc, il y a voilà, trois textes que nous n'avons pas le droit d'enseigner en public. Ces trois textes, c'est quoi? Eh bien, ce sont ce qu'on appelle Maase Bereshit, Maase Merkava, Vesitre Arayot. Assur l'idrosh barabim. Alors certains, on a le droit, quand on est deux, certains, on a le droit d'enseigner que à un, et l'autre, on a le droit d'enseigner que, enfin, que d'étudier tout seul. Mais, donc on a trois choses interdites, a priori. Maase Bereshit, c'est quoi? Ben, c'est ce qui est marqué dans le premier chapitre du livre de Bereshit. Donc, ce sont des choses qu'on n'a pas. La troisième chose, c'est Sitre Arayot. Mais qu'est-ce que c'est que Sitre Arayot? On aurait pu dire que c'est ce qui a marqué dans la paracha de Acharemot, c'est-à-dire tous les dîners à Rayot. Eh bien non, il s'agit tout simplement de Shir HaShirim. Comment sait-on qu'il s'agit de Shir HaShirim que nous n'avons pas le droit d'enseigner Barabim, qui est le troisième texte qu'on n'a pas le droit d'enseigner Barabim, d'après le Talmud? Eh bien, tout simplement, nous avons un témoignage. Nous avions l'un des pères de l'Église, donc nous sommes à l'époque byzantine, l'un des pères de l'Église s'appelait Geronimus. Geronimo, pas le, l'Indien, le chrétien. Oui, c'est l'autre. Il y a des coupures. J'espère que ça va aller mieux. Ça va mieux là maintenant? Ouais, j'espère que ça va mieux. Bon, en tout cas, donc, Geronimus, peut-on améliorer la connexion? De mon point de vue, pas vraiment. Mais on va essayer. On va essayer. De mon point de vue, je suis au top là. Quoi qu'il en soit, donc, Geronimus, père de l'Église, habitant à Bethléem, qui a sa mouline, moi c'est top. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis. Je ne sais pas quoi vous dire. Mais en tout cas, nous, on continue. Donc, Geronimus nous dit un témoignage. C'est pas, on n'apprend pas la halakha de Geronimus, mais il nous donne un témoignage. Il nous dit qu'il y a trois textes que les Juifs n'enseignent pas en public. Il dit le premier chapitre de Bereshit, le premier chapitre de Ézéchiel, c'est Bereshit, c'est Merkava, et enfin, Shir HaShirim. Donc nous avons ici un témoignage qui nous date du 4e siècle, que effectivement, le troisième texte que nous n'enseignons pas en public, eh bien, c'est bel et bien Shir HaShirim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'étudier? Tov, non. Bemet, Sitre Arayot, les secrets de Shir HaShirim. On ne va pas les étudier ensemble. Nous, on va étudier les bases de les bases. Donc, on n'aura pas de problème. De la même façon, quand j'enseigne le livre de Bereshit, eh bien, on enseigne les bases. Ne vous en faites pas. Donc, quoi qu'il en soit, il semblerait que donc, ça fasse partie des Sitre Arayot, des secrets des relations entre les hommes et les femmes. Parce que lorsqu'on ouvre le livre de Shir HaShirim, eh bien, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que c'est Shir HaShirim? Shir HaShirim, c'est un chant d'amour entre un homme et sa femme, entre un homme et une femme. Vous allez me dire, non, c'est la relation d'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple juif. Je veux bien, sauf que c'est marqué nulle part dans le texte. Et avant de rentrer dans les explications ésotériques, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que le texte veut nous dire. Qu'est-ce que le livre du Tanakh veut nous dire. D'ailleurs, c'est ce qui me permet d'arriver à ma deuxième question. Comment ça se fait que c'est dans le Tanakh, cette histoire? Alors, vous allez me dire, c'est écrit par Shlomo HaMelech. Azma. Il y a des choses que Shlomo a écrites qui n'ont pas été dans le Tanakh. Il y a des choses que Moshe a écrites qui n'ont pas été dans le Tanakh. On n'a jamais vu la liste de courses de Moshe. Et pourtant, Minastam, il a écrit qu'il fallait amener de la manne gouviande et de la manne goulée pour Pessah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pas parce que Shlomo a écrit que ça rentre directement dans le Tanakh. Et là, Bérette, c'est une chance, c'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour, mais qui est non seulement Bekidvé à Kodesh, et ça c'est assez bizarre parce que d'habitude l'amour entre un homme et une femme, c'est d'ivré Khoulin, ce ne sont pas des d'ivré Kodesh. Et là, c'est dans l'Ekidvé à Kodesh, c'est dans le Tanakh, mais non seulement c'est dans le Tanakh, mais en plus de ça, Rabbi Akiva nous dira que Kol HaShirim Kodesh veShir HaShirim Kodesh HaKodeshim. Donc Shir HaShirim, c'est non seulement Sidrei Arayot, c'est non seulement dans le Tanakh, mais en plus c'est Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodeshim. Il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit, Rabotai. Eh bien, tout d'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette dimension de Kodesh HaKodeshim. Alors, on a déjà enseigné ensemble, on a déjà étudié ensemble. Kodesh HaKodeshim, c'est d'abord un endroit. C'est un endroit dans le Beth Amikdash. Et dans ce Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodeshim, eh bien, nous avons quoi? Nous avons d'un côté les Kérouvim, Aaron, et d'un autre côté l'Arche d'Alliance avec les Chérubins, et de l'autre côté, dedans, nous avons le Sefer Torah de Moshe, les Luchot Abrit, les cassés, les papes, tabrit. Et nous avons des objets qui sont par définition chol, comme les statues des chérubins ou la boîte en elle-même. De là, eh bien, nous apprenons que s'appelle Kodesh HaKodashim ce qui est capable de réunir le Kodesh et le chol. Là où il y a union du Kodesh et du chol, eh bien, ça s'appellera Shir, et ça sera Kodesh HaKodashim. C'est pas évident, car dans la flopée de livres que nous avons tant dans le Tanakh, 24 livres, que dans Bichlal, la bibliothèque juive, je ne vais pas compter, mais il doit y avoir. Il n'y en a que trois qui ont été appelés Kodesh à Kuzari et qui a été appelé par. Et le Gaon de Vilna, mais avant lui, Baal Ktsot HaChoshen, qu'ils ont appelé ce livre Kodesh HaKodashim. Et enfin, le livre Oroth du Rav Kook, qui a été appelé par son fils, le Rav Tzvi Yehuda, Kodesh HaKodashim. Et si vous me dites, oui, mais le Rav Tzvi Yehuda est parti pris, c'est pour ça qu'il appelle le livre de son père, c'est son père. Je vous répondrai bien sûr que non, puisqu'il y a un autre livre de son père qui s'appelle Oroth HaKodesh. Et le Rav Tzvi Yehuda ne l'a pas appelé Kodesh HaKodashim. Quand on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que Oroth HaKodesh, c'est Kodesh, et Oroth, c'est Kodesh HaKodashim. En d'autres termes, il y a une différence entre les deux. Quelle est cette différence? Eh bien, vous avez compris, Kodesh HaKodashim, c'est là où il y a l'union du Kodesh et du Chol. Là où c'est Kodesh, c'est que Kodesh. Or, dans le livre Oroth, le Rav Kook nous explique comment la Tzionut Achilonite, le sionisme laïque, Chol, et la réalisation de la promesse des prophètes, Kodesh. De la même façon, le livre du Kuzari nous explique comment l'histoire du peuple juif, Chol, c'est le dévoilement de la Géoula et de la volonté de Dieu, Kodesh. Eh bien, il en va de même pour notre histoire de Shir HaShirim, chant d'amour entre un homme et une femme. L'amour entre un homme et une femme, c'est Chol, c'est ce qui amène aux générations suivantes. C'est ce qui amène au repeuplement de la terre. C'est tout. Ben, c'est ça. Un acte amoureux entre un homme et sa femme, ça amène à une naissance. Zéchol, les animaux le font aussi. Ah oui, mais d'un autre côté, l'amour entre un homme et sa femme nous amène à dévoiler l'unité du Créateur. Nous emmène à dévoiler Akadosh Baruch Hu. J'espère que ne nous entendent pas des jeunes, car nous allons parler de choses d'adultes. Oui, de quoi parlons-nous? Vous savez, il y a une halakha très bizarre. Une halakha très bizarre qui, le tam qui est donné dans la Mishnah est compréhensible, mais bon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne la fait plus aujourd'hui. C'est quoi cette halakha? Un chatan. Belaila arishon shel hachatuna ou patur mikriyat shema. Qu'un chatan qui se marie, le soir de ses noces, il est dispensé de dire le shema. La Mishnah dans Maseret Brachot nous explique pourquoi. Elle nous dit que c'est parce qu'il est taroud. C'est parce qu'il est très, très perturbé dans sa tête par la soirée, la nuit qui va suivre les festivités du mariage. Et que donc, il n'arrive pas à se concentrer pour dire le shema. Pour pimenter la question, le Sanhedrin voulait l'ignosoto. Tu as totalement raison. Pourquoi il voulait l'ignosoto? Justement pour ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors, bien, on va voir de quoi il s'agit. C'était la phrase que je voulais dire après, mais tu m'as précédé, Baruch Hashem. En tout cas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il taroud. Et la Mishnah nous dira, d'ailleurs, on parle que s'il se marie avec une betoula. S'il se marie un deuxième mariage avec une almana, alors il n'est pas taroud. Bon, c'est pas vrai. Alors, il serait taroud de quoi? De lui faire perdre ses betoulim, qu'elle est mal, tout ça, machin. Si lui, il est batoul, il est taroud tout autant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, cette histoire de taroud, c'est un sipour qui souille, comme on dirait dans le jargon du monde. C'est une couverture. Parce que de quoi s'agit-il en vrai? Botaï, ne me prenez pas au mot. Je sais qu'il y a peut-être des médecins et peut-être même des gynécologues qui m'écoutent. Donc, si je dis une bêtise scientifique, c'est possible. Hein, je ne suis absolument pas professionnel. Mais ce que je parle, c'est au niveau de ce que ça représente. Peut-être que même que ça marche aussi au niveau scientifique. Mais nous dit le Talmud dans le traité de Nida qu'a priori, même s'il peut y avoir des exceptions, et le Talmud en parle, mais a priori, d'une biya rishona, d'un acte amoureux premier entre un homme et sa femme, lorsque lui est, enfin lui c'est moins important, mais elle surtout est vierge, eh bien, de cette première union, il ne doit pas pouvoir vraiment y avoir de naissance. Un jour, on m'avait expliqué qu'il y a un problème, c'est que le sang empêche, le sang qui est dû à la brisure des bétoulim, eh bien, empêcherait la vivacité des spermatozoïdes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas au niveau médical, ça, il faudrait que vous m'éclairiez, mais en tout cas, le Talmud nous dit qu'après une biya rishona, a priori, il n'y a pas de bébé. Ce qui veut dire que cette biya n'est pas une relation pour amener à la naissance, qui est chol, comme on a dit tout à l'heure, mais au contraire, qui est ce qu'on appelle biyat mitzvah. Qui n'a rien d'autre à apporter que le simple fait de l'acte sexuel en lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il nous explique, ce moment-là? Eh bien, ce moment-là, qui n'est pas pour amener la vie, il est là justement pour faire en sorte que lui et elle qui s'unissent deviennent un. Et je ne vais pas vous faire un dessin. Comment est-ce qu'un homme et une femme qui ont une relation sexuelle ensemble, eh bien, deviennent un? C'est barour, pachout pour tout le monde. Ce qui veut dire que le khatan, lorsqu'il va aller avec sa femme, et c'est pour ça qu'on nous parle d'une betoula, parce que c'est une almana, eh ben tu peux tomber enceinte dès le premier soir de tes noces. Donc non, on te parle d'une betoula. Et on te dit quoi? On te dit khatan balaila arishon patur mikriat shema, il est dispensé de dire le shema. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas besoin de dire le shema à ce moment-là. Il est le shema. Il est lui et elle, ils sont ensemble, shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Il dévoile l'unité du Créateur dans leur acte. En d'autres termes, c'est Kodesh. Là où il y a l'union, l'amour de l'un homme et de sa femme, du Kodesh et du Chol, eh bien, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Et c'est pourquoi Shir HaShirim, c'est Kodesh HaKodashim. D'ailleurs, Shir HaShirim a été écrit par Shlomo. J'entends bien. Mais on a dit, on ne peut pas tout de suite parler de l'amour entre Dieu et Knesset Israël. Il faut lire Sader Gamour. L'homme, de qui parle Shlomo, Alpi Apshat, de lui. Enfin, même s'il ne parle pas de lui. La personne qui a inspiré Adod, c'est lui-même. Mais qui a inspiré la Raya? C'est ça la question. Quelle est la femme qui a laissé Shlomo avec une telle impression que, ben voilà, que ça l'a inspiré, c'était sa muse pour écrire Shir HaShirim. Quelle était la muse de Shlomo? C'est une bonne question, ça. Nous, Matem Omrim, peut-être sa première femme. Qui était sa première femme de Shlomo? Ah oui, vous avez le choix, il en avait 1000. Ah oui, non, mais 1000, t'as le temps de faire le tour, hein, mon ami, hein? Ah ben évidemment. Donc, 1000 femmes. Quelle est la femme que Shlomo a le plus kiffé? Ah, soyons fous, disons-le. Peut-être être sa première femme, peut-être être sa 367e. La première femme de Shlomo, c'était Naama. Naama à Ammonite. Naama à Ammonite. Oui, oui, tout à fait. De Ammon. C'est d'elle que va y avoir l'héritier. Rechavam ben Shlomo. C'est de lui, Rechavam, que va sortir la lignée de la dynastie de Beth David et donc du Mashiach. C'est pas rien, Naama à Ammonite. Sauf que c'est pas Shlomo qui l'a choisi. Ah ben non. Naama, il s'est marié avec elle quand il avait 12 ans. Et c'est pas lui qui s'est marié avec elle, c'est son père, David, qui l'a marié avec elle. Il voulait avoir de bonnes relations diplomatiques avec Ammon, et donc il a marié son fils, Shlomo, qui était préposé au trône, avec Naama. C'était un an avant l'accession au trône de Shlomo. Donc bon, si tu veux, la relation qu'entretenaient Shlomo et Naama, c'est pas construit à la base sur un amour fou, quoi. Donc, quelle est cette femme qui est devenue la muse de Shlomo? Alors, quelqu'un veut se risquer? Peut-être est-ce la reine de Saba? Qui était-ce? Eh bien, tout simplement, le livre de Melachim nous répond à cette question. Quelle est la femme que Shlomo a le plus aimée? Eh bien, la femme que Shlomo a le plus aimée, je ne vais pas vous donner du suspense plus longtemps, c'est qui? C'est Bat Paro. La fille de Pharaon, de fou. Ah, ma connexion est instable. Voilà, je reprends. Ma connexion est instable. Le mariage de Shlomo et Bat Paro est un mariage de folie, tel qu'il est présenté dans le livre de Melachim. Il aime cette femme extraordinairement. Il l'aime, mamash. D'ailleurs, il l'a tellement aimée, nous dit la Torah, qu'il l'aime plus que toutes les autres. Et quand il a fait ce Khatuna Mefoeret, qu'est-ce que la Torah nous dit? Donc, il a fait une Khatuna de folie avec Bat Paro, Vayechaten Shlomo et Bat Paro, et Paro Melech Mitzrayim, c'est-à-dire qu'il est devenu son Khatan. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait marqué dans la Torah Vayehav et Ishto, et la Torah me dit Vayehav et Hashem. Yehav et Hashem. Eh oui. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Eliyahu. Ken, Rabbi Eliyahu Devidas. Rabbi Eliyahu Devidas était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, à Ramak. Et Rabbi Eliyahu Devidas nous dit, vous savez, mon rave, donc à Ramak, il a écrit des sfarim de Kabbalah extraordinaires. Seulement, pour pouvoir les étudier, il faut être au niveau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un livre qui te permettra d'être au niveau d'étudier les livres de mon rav. Alors, il a fait mot, Todarabar, et bien il y a Odividas, c'est quoi ton livre? Eh bien, c'est un livre qui s'appelle Reshit Chochma. Et donc, dans ce livre, Reshit Chochma, Rabbi Eliyahu Odividas nous dit la chose suivante. Mi shelo ta'am ahavat isha, לא יכול לטעום אהבת השם. על סמך הפסוק, suivant le pasuk qu'on a évoqué tout à l'heure dans le livre de Melachim, celui qui n'a pas goûté à l'amour d'une femme, de sa femme, alors il ne peut pas comprendre ce que c'est aimer Dieu. En d'autres termes, et là, je dis à nous tous, l'amour qu'on ressent pour notre femme, pour notre mari, eh bien, c'est ce qui détermine notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Il faut le savoir. Si tu es brogueuse avec ta femme, qu'en irait que ta relation avec Dieu, elle est brogueuse. Quand ta femme et toi, ben, ça marche, c'est que ta relation avec Dieu, ça marche. Ken? Donc, nous disons ici la chose suivante. Sefer Shir HaShirim détermine ma relation avec ma femme. la relation idéale ou pas, on va voir, entre un homme et sa femme. Et donc, lorsque Shlomo écrit, il le vit au pshat. C'est-à-dire au pshat, eh bien, ça veut dire qu'il comprend tout à fait comme ce qu'il a écrit, que c'est la, simplement la mise en, en surbrillance de, c'est la mise en surbrillance, l'écha, de sa relation qu'il peut entretenir avec Bat Paro, et donc de la relation qu'il veut avec sa femme, avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est que plus tard, lorsque le Beit HaMikdash HaRishon sera détruit, lorsque la puissance de Yemei Shlomo, de l'époque de Shlomo et du Beit HaMikdash va chuter, eh bien que la tradition d'Israël va devoir traduire ce texte en un texte méchali, en un texte de parabole, pour nous expliquer la relation entre Am Israël, la Réaïa, et Akadosh Baruch Hu, Adod, Khatan. Mais ce n'est que parce que nous avons perdu cette profondeur d'une relation entre un homme et une femme. Cette relation pastorale, cette relation romantique, voire même érotique, telle qu'on regarde dans le texte. Parce que lorsque on comprend que cette relation pastorale, romantique et érotique est la réflexion directe dans ce monde de la relation qu'on entretient avec Dieu, alors c'est Beseder Gamour. Alors c'est Beseder Gamour. Ça nous fait référence directement à ce que dit Rabbeinu Bechaye à propos de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, vous savez, il travaille 7 ans chez Lavan. Il travaille 7 ans chez Lavan pour avoir Rachel, pour pouvoir se marier avec Rachel. Et au bout de la 7e année, ça y est, arrivé à la fin du programme de travail, il vient voir son futur beau-père, c'est même pas encore son beau-père, et il lui dit, je cite le verset dans le livre de Bereshit, il lui dit « Ava et Ishti » et je veux coucher avec elle. C'est comme ça qu'on parle. Rashi, ok, il dit « Afilu kal shebekalin eino omerken lo kacha medabrim » Il dit même le plus dévergondé ne parle pas comme ça. Bon, il semblerait que Rashi vivait au 11e siècle. Non, parce que si Rashi il avait vu comment les gens parlent sur les réseaux sociaux au 21e siècle, je peux t'assurer que les gens ils disent des trucs bien pires aujourd'hui qu'à l'époque. Mais à l'époque du 11e siècle, on ne parlait pas comme ça à son futur beau-père. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit « Aval le'amit toladot nitkaven » Benou Bechayen, il dit « Ça, c'est parce que nous, on n'est pas à 100% dans la relation avec Dieu. » Et donc, pour nous, eh bien, quand on parle de la relation qu'on entretient avec notre femme, il peut y avoir dedans mêlé l'ana personnelle, le kiff personnel d'être avec ma femme. Ce qui n'est absolument pas mauvais. Hein. Mais Yaakov, lui, toute sa vie, c'est sa relation avec Dieu. Tout est bigdusha. Et donc, pour lui, parler d'avoir une relation avec sa femme, c'est comme de parler de son coude. C'est pareil. Son genou. C'est pareil. En shum gnout, à ce niveau-là, il n'y a aucun... aucune dimension péjorative de parler de cela. Donc voilà, c'est cela, Shira Shirim. Rabbi Akiva, qui était berger et qui a rencontré Rachel dans ces conditions, eh bien lui, il a compris que cette relation pastorale décrite, eh bien c'est Kodesh HaKodeshim. Shira Shirim. Ashir Shel Ashirim. C'est quoi? Ashir shel ashirim. C'est-à-dire Ashir she'ose shalom ben kol ashirim. Dans notre deuxième cours, vous inquiétez pas, on entrera dans le texte de Shir Ashirim. Mais notre premier cours est un cours d'introduction parce que c'est fondamental. Shir Ashirim. Ashir shel ashirim. C'est quoi ça? Eh bien, ça nous renvoie directement à une explication fondamentale du Rav Kook dans le livre Orot HaKodesh. Il y a une explication à Mahamar, un texte qui s'appelle Shir Meruba. Shir Meruba. Shir Meruba, la chanson aux 4 dimensions. Nous dit le Rav Kook, il y a des gens qui ont comme chanson à la bouche et shirat yesh adam sheshlo sheshar lo et shirat nafsho. Ce sont des gens qui chantent la chanson de l'individu. connaissez certainement des gens comme nous a poussé à cela, à l'individualisme exacerbé. Il y a des gens qui ne pensent qu'à eux, qui pensent à se réaliser. Aujourd'hui, on parle de Hatsama Ishit, de réalisation personnelle. C'est le plus important dans notre société occidentale, malheureusement, actuellement. Genre, il faut que tu te réalises, que tu te kiffes. Encore une fois, je ne suis pas contre le kiff. Mais, par exemple, je suis marié depuis 20 ans avec ma femme. Et ben là, ça, au bout de 20 ans, j'ai changé, mais elle aussi, elle a changé. Et puis, elle est après cette naissance. Son corps a changé. Ce n'est plus exactement la belle gosse de 20 ans que j'ai épousée. Elle en a 40 maintenant. Et moi, j'aime bien les filles de 20 ans. Et un très bon travail, je vais pouvoir me payer une jeune fille de 20 ans, elle va dire oui. C'est terrible. Mais il y a des gens pour qui le plus important, c'est Annie. Yesh Shechar et Chirat Nafcho. Top. Ve Yesh Shechar et Chirat Ha'uma. Il y en a un qui chante la chanson du Klal, du peuple. Lui, il vibre au rythme de l'identité collective du peuple juif. Son identité individuelle, pas très important. Ce qui est très important, c'est l'identité collective. C'est Am Israël. C'est un nationaliste jusqu'au bout des ongles. Ce qui l'intéresse, c'est le drapeau. Hein ? C'est une autre façon d'être. Vous en connaissez également certainement. De Rav Kook, Veyesh Shechar et Shirat Adam. Et il y en a un autre qui chante la chanson de l'homme. De l'homme. Papa, l'humanité. Il faut se détacher de cette particularité du peuple juif, ce nationalisme fasciste. Ce qui est important, c'est que nous sommes tous frères humains sur cette planète. Nous sommes tous des êtres humains et donc il n'y a que cela qui nous rassemble. Il faut arrêter le communautarisme pour parler de ce Kfar Globali, de cette grande famille humaine dans laquelle nous évoluons. C'est un humaniste. Dit le Rav Kook, il y en a un quatrième. Shechar et Shirat Ha'olam. Lui, la dimension individuelle ne l'intéresse pas. Qui je suis face au cosmos? Le peuple juif, dans l'immensité de l'univers, c'est quoi, Israël? L'homme, Bichlal, l'homme, l'homme n'est qu'un grain de poussière sur cette planète. Par rapport à toute la biodiversité qu'il y a sur la planète, l'homme, c'est Kloum, c'est Shum Davar. Donc, lui, il chante Shirat Ha'olam, le cosmos. Lui, il fait du yoga où il n'entend que le ruissellement de l'eau sur les cailloux dans une clairière. Il ne sait parler, il ne saurait interagir avec cette entité ancestrale, mère nature. Voilà, ce sont les quatre dimensions des quatre chansons. Vous aurez remarqué, évidemment, que ces quatre chansons sont les quatre enfants de la Haggadah. Tout simplement. Nous commençons donc à répondre à notre question, quel rapport entre Shir HaShirim et Pessah ? On y vient. Eh oui ! Ces quatre chanteurs sont les quatre enfants de la Haggadah, bien sûr. Achacham, Mao Omer, Maedod, Vachukim, Vamishpatim, Asher, Tziva, Hashem, Elokeinu, Etrem. On rotze l'ilmod alacha. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est comment est-ce que lui, il doit faire les mitzvot. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui répond. Lo maftirim achar bezar dikman. Tu dois manger là. On lui donne une alacha que lui, il va devoir réaliser. Quelque part, le chacham, il s'en fiche des autres. Il veut, lui, faire son seder al pia luche. Ou à chacham. Ou à tzadik. Aval ou tzadik prati. La reine, il veut apprendre la halakha, mais il ne s'inscrit pas dans le klal Israël. Ou peut-être que si, mais uniquement pour faire des mitzvot avec les autres. Il dit Ma haedot vachukim vachmishpatim asher tziva Hashem Elohenu. Donc il s'inscrit quand même, mais etrem. C'est-à-dire que je veux comprendre ce qui vous a été donné pour comprendre comment moi je le mets en pratique. Il a cette dimension d'individualisme religieux. Aracha, oh, ma Aracha, Aracha, c'est notre nationaliste. Il dit Ma avoda zot lachem. Lachem velolo, otsi et atzmo minaklal. Et donc tu lui dis, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré en tant que membre du clan Israël. C'est-à-dire que tout son problème, c'est la référence au peuple juif. Il nous dit le Rav Kook, Avalacha, va t'a la po. Ah, pourquoi tu fais des problèmes? Il dit le Rav Tzvi Yehuda Kook. Une explication incroyable. Il dit, en fait, non. Le Racha ne veut pas s'exclure du peuple. Car lorsqu'on dit « Ma avoda azot lachem »« Lachem velolo » Eh bien, dit le Rav Tzvi Yehuda, ce n'est pas le narrateur qui dit « Lachem velolo » mais c'est tout simplement le même Racha qui continue à parler et qui dit « Cet avoda que vous faites, le Korban Pessah, c'est lachem velolo » C'est-à-dire, vous êtes en train de kiffer le Korban Pessah, c'est-à-dire un bon shawarma. Moi aussi, je le kiffe. Mais ne me dites pas que c'est pour lui. Vous kiffez d'être en train, nationalement parlant, de vous faire un barbecue. Il est notre Racha, ce personnage qui peut-être a rejeté la pratique individuelle des mitzvot, aval son mangal beyom ha'atzmaout, il ne l'abandonnera sous aucun prétexte. Et là, je me permets de poser une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Parce que autant je peux imaginer que Am Israël va suivre les consignes de confinement pendant Chol HaMoed Pessah, même si ça va être très dur de patiouler Yom HaAtzmaout et son mangal à la maison. Ça, j'ai du mal. Mais bon, on verra. Peut-être que Bezrat Hashem, il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin. Entre parenthèses, je vous dis ici ce qui s'est passé. Je vous raconte, j'ai envoyé ce message à ma communauté. Oui, parce que hier soir, mon fils de 9 ans me dit, papa, quand est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe avec le nettoyage de Pessah de la choule? Je lui dis, écoute, il n'y a pas besoin cette année parce qu'on ne va pas utiliser la choule du tout à cause du confinement. La choule sera fermée pendant Pessah. Et il a entendu mes paroles et il a compris à quel point elles étaient dénuées de tout Torah. Elles étaient une kfira mouchletet. Et donc il m'a dit, mais enfin, Geoulat Hashem Kerefain. Dieu, il peut amener la Geoula pouf. Et Dieu, il peut emmener la fin du corona, bétchik, comme ça, demain. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'un coup, Bibi, il va dire, bon, bah, c'est bon, allez, reprise de la vie normale. Et on va se retrouver dans une Sina qui est dégoûtante, qui n'est pas nettoyée et qui, en plus, est pleine de Hamet. Bah, qu'à ça ne tienne. Aujourd'hui, on a nettoyé la synagogue, elle est prête à l'emploi. Si elle reste fermée, elle reste fermée. Mais si on peut, Bezrat Hashem, la rouvrir, eh ben, elle sera prête. En d'autres termes, je vois mal comment on va pouvoir faire notre Yom HaAtzmaout en confinement. Mais ça, c'était entre parenthèses. Notre Racha, c'est donc celui-là qui s'attache uniquement à la dimension collective. Atam, Maushoel, Mazot. Il veut comprendre toute l'histoire. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas que ce qui est advenu des Hébreux, des Juifs, mais il veut savoir aussi ce qui est arrivé aux Égyptiens. Il veut comprendre qu'est-ce que c'est les Man Yedam Mitzrayim qui ani Hashem. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe du point de vue des Égyptiens, c'est-à-dire du point de vue du monde de l'époque. Il se soucie complètement du goral de ce qui va devenir des nations. Et enfin, notre Sheino Yodea Lishol, Bayolo Yodea Lishol, parce qu'il chante Shirata Olam. Comme je vous ai dit, c'est le mec qui écoute le cours d'eau sur le caillou. Il ne peut pas parler. Il dit, la voix est d'argent, mais le silence est d'or. J'entends la nature s'exprimer. Nounou. Et termine le Rav Kook en disant qu'il y a un Ben Achamishi dans la Haggadah. Nous, on a l'habitude de parler du Ben Achamishi comme étant celui qui n'est même pas présent au Seder. C'est possible. Mais pourquoi ne pas dire que le Ben Achamishi, c'est celui qui, bah, tout simplement, fait l'union des quatre autres. termine le Rav Kook dans son texte sur les quatre chansons en disant que yesh shir chamishit. Shir el. Yisra'el. Yashir el. La chanson du Ham Israël, c'est cette cinquième chanson. Israël, Otiot, Yashir el. Pas seulement Yashar, et la Yashir el. On peut lire comme on veut, avec une ponctuation comme ça nous arrange. Il nous dit le Rav Kook, « Zeshir Hashirim », la chanson qui vient mettre tout le monde d'accord, en fait, qui vient s'élever au-delà des quatre autres, qui puise dans les quatre autres pour être une chanson. « Hashir Lishlomo, la melech shashalom shelo. » « Shir Hashirim Asher Lishlomo » c'est la chanson de celui qui est capable de chanter les quatre autres. Shir Hashirim, c'est Dafka la fête de Pessah. Parce que la fête de Pessah, c'est le moment où les quatre enfants nous permettent de dévoiler le cinquième. C'est le moment où chaque identité de ces quatre enfants nous permet d'arriver à une dimension beaucoup plus globale. Zeshir Hashirim, Asher Lishlomo. Et c'est pour ça qu'alors vous allez me dire, les Sfaradim, ils disent Shir Hashirim tous les Shabbats, évidemment. Ki Shabbat c'est Me'eno Lamaba. Ki Shabbat c'est Kodesh HaKodashim. Les Ashkenazim ont pris l'habitude de lire Shir Hashirim à Chol HaMoed Pesach. Shabbat Chol HaMoed Pesach. Parce que Pesach est le moment par excellence où cette union entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu a pu se dévoiler. C'est le moment où notre histoire est devenue Kodesh HaKodashim. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous chantons Shir Hashirim à ce moment-là particulièrement. Shir Hashirim ne pouvait donc être écrit que par Shlomo. Shehu Melech HaMashiach. Shlomo est le fils de David, il est donc Ben David. Ou Nimshach Beshemen HaMishra. Il a été oint avec l'huile d'onction. Et il est roi. Il a donc tous les critères qu'on a besoin pour être le Mashiach. Il a ramené le peuple juif en Israël à son époque. Bon, il y était déjà, tu me diras. Il a construit le Beth Amikdash. Il a mis la Torah au centre du Ham Israël. Il a tout fait ce qu'il fallait faire. Nounou, c'est bon. L'eau. Shir Hashirim, Asher Lishlomo, s'est arrêté d'être Shir Hashirim, Asher Lishlomo, dès le deuxième verset. Eh oui, car dès le deuxième verset, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on va nous dire tout simplement que Shlomo va se concentrer sur une chanson tragique. Car la relation qu'il voit entre lui et sa femme, ou de Haïnou plus tard, on va comprendre comme étant la relation entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, eh bien, on va, je vous dis, dans le prochain cours, on va se concentrer sur le texte de Shir Hashirim, mais c'est une chanson tragique. Parce que finalement, à chaque fois qu'elle est prête à voir son amoureux, il n'est pas là. Et à chaque fois que lui veut la voir, elle n'est pas là. Il n'y a donc pratiquement aucune rencontre entre les deux. Et c'est terrible. C'est un jeu de cache-cache insupportable, Shir Hashirim. Finalement, il n'y aurait donc pas de possibilité d'avoir une fin heureuse. Caché méode. C'est pourquoi le livre se termine en disant « Yoshevet baganim, chaverim makshivim lekoler hashmieni. » Areaya, Yoshevet baganim, elle est prête à recevoir la visite de son amoureux. Elle n'attend que ça. Ça y est, je ne bouge plus. Je suis prête. Mais le pasouk termine en disant Barach dodi udemei lecha letzvi olofer ayalim al arev b'shamayim. Arev b'samim, slicha, al arev b'samim, j'ai dit n'importe quoi. Barach dodi. Il n'est plus là. La tradition d'Israël, de nos frères séfarades qui, Baruch Hashem, est arrivé également dans le monde ashkénaze, c'est qu'on ne se contente pas de terminer en disant ce verset. On termine après avoir dit Barar Dodi Vedmelecha Letzvio La Ofer Ayalim Halareb Samim, qu'il s'est enfui, qu'il n'est pas là. Eh bien, on continue et on redit Hayoshevet Baganim Chaverim Akshivim Lekoler Hashmieni. On est toujours là et cette fois, on est prêt. On est prêt à recevoir la rencontre. Certes, pendant tout le livre, et on le verra la semaine prochaine, on a fui, il a fui, on s'est raté. Mais pour la dernière rencontre, nous sommes là et on restera jusqu'à ce qu'il y ait rencontre. Pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à lire Shir HaShirim à Pessah d'Afka? Parce qu'à Pessah, on termine le Maguid en faisant cette bracha de Gaal Israël, où on dit qu'on a fait tout ça pourquoi? Car shetavienu le moadim velergalim acherim smechim bebinyan lecha venashir lecha sham shir chadash al geulatenu val pedut nafshem. L'objectif est de chanter une nouvelle chanson. Shir chadash. Mais c'est shir chadash. D'après la halakha, c'est le halel de Yom Ha'atzmaut. Mais d'après ce qu'on est en train de dire, durant l'exil, on a des fois raté, des fois lui nous a raté, des fois nous on l'a raté. Et la rencontre, si elle a eu lieu, elle a été extrêmement brève. Mais on est prêt maintenant à la Shir, Shir Chadash. Mazé Shir Chadash, Al Tzion Tahir. Venizke Chulanu Bimera Leoro. Shir She'en Acharei Galut. Cette chanson qui permettra au monde entier, au Goyim d'abord, de se rattacher, qui Beiti Beite Fila Ikare Le Chol Ha'amim, et qui permettra à la création tout entière de revenir vers Akadosh Baruch Hu tel qu'il est mentionné dans le Perek Shira. En d'autres termes, Shir Chadash, qui fera le shalom dans toutes les chansons. Anachnu, kulanu tfila. Ceux qui sont plus individualistes, ceux qui sont plus nationalistes, ceux qui sont plus humanistes, ceux qui sont plus écologistes, nous devons avoir une tfila profonde. Que Am Israël réussisse à devenir à col. Pour que enfin, cette Shir HaShirim, Kodesh HaKodashim, puisse devenir Shir la Melech, pas Shlomo, mais la Melech, Shea Shalom, Shelo, Shenizke, le Shalom Amiti, de toutes les dimensions qu'on a évoquées, grâce à cette chanson, et que si on n'arrive pas à être ensemble pour Pessah, et bien qu'on puisse être ensemble, Bezrat Hashem, Ayom Ha'atzmaut. Amen. Ken Yehi Ratzon. Shabbat. Ouais, non, pas Shabbat. Chag Sameach à tout le monde. Chag Sameach. Et on se revoit. Be'emtsa Simcha. Bechol HaMoed Pesach. Pour le texte de Shir HaShirim. À bientôt tout le monde.